Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Bonsoir. Aujourd'hui dans Retransmission, nous partons sur L'île inventée, nom du livre écrit par Christiane Vadney. Réalisé par Rhizome, Arkham-sur-Loire et en collaboration avec La Quadrature, la série de podcasts Cosmogonie de L'île inventée nous emmène découvrir l'île imaginaire aux mille facettes de l'autrice. Nous allons tout de suite écouter le second épisode de la série, Déjà vu. Cet épisode retrace l'événement traumatisant ayant forcé Garçon sans nom à quitter son village au Brésil pour émigrer sur l'île inventée. Bonne écoute.
Bienvenue au deuxième épisode de Rencontres d'auteurs. Je suis Simon Dumas, éditeur chez Rhizome, et je discute avec Christiane Vadney, écrivaine québécoise de son livre L'île inventée. Aussi avec nous en studio, les invités surprises de Christiane Vadney, les archéologues français Flavirus et Louis-Émile Grenier.
Nos sociétés étaient encore chancelants et hésitants.
Donc, L'île inventée, qui se trouve au cœur de votre livre, Christiane Vadney, si je comprends bien, n'est dirigée par personne en particulier. On n'y trouve vraiment aucune surveillance de la loi et l'ordre, dirons-nous.
Oui, il faut dire que L'île inventée n'aura connu que 3 ou 4 générations d'adultes sur sa centaine d'années d'existence. Ils n'auront peut-être pas eu le temps de sédimenter leur structure sociale. Par exemple, dans le livre, Ancilou cherche à comprendre comment est morte sa mentor, Suzy Fleming. Elle interroge des habitants, elle consulte des bulles sonores, elle fouille toute trace de Suzy sur l'île, mais elle n'a pas ce qu'on appelle ici une autorité compétente vers qui se tourner.
Oui, dans le fond, c'est un peu un polar sur fond de bons vieux rêves anarchistes, n'est-ce pas?
Cliché ou pas, Charlotte a clairement sélectionné les sujets de cette expérience de colonisation avec soin pour créer un nouveau contrat social.
Colonisation, vous dites, intéressant.
Oui. Bien que les idéaux animant Charlotte et Alcide soient autres que ceux des conquérants européens.
Oui. En fait, si vous voulez, le projet d'Alcide était plus de végétaliser une société humaine que de coloniser un territoire. Sauf qu'il en fallait bien un territoire, et il a eu le bon goût de le choisir inhabité.
Reste que l'imaginaire impérialiste était encore très fort à l'époque. Dans l'imaginaire collectif, un monde meilleur, qui restait à découvrir, existait nécessairement au-delà de la mère patrie. Dans un territoire vierge, encore à façonner.
La grande différence, c'est évidemment que Charlotte Sémaphore et Alcide Lachance n'avaient aucune prétention d'acquérir l'île au nom d'une puissance étrangère. Au contraire, Charlotte a parcouru durant 2 ans les estuaires du monde en proposant...
Bah, principalement de la francophonie, hein, si je puis me permettre, Christian.
Oui, tout à fait, Louis-Émile, en effet.
Oui.
Principalement de la francophonie pour proposer à une myriade d'originaux de partir avec elle, fonder ce rêve fou, cette vue de l'esprit qu'elle a réussi à rendre plausible de par ses incroyables capacités relationnelles. Comme on le dit... La plupart étaient des scientifiques, mais de sciences bien plus diversifiées que notre conception occidentale et contemporaine peut l'imaginer.
En fait, dans de plus rares cas, elle a pris à son bord...
Et sous son aile.
Des personnes dont les qualités étaient autres que scientifiques, mais qui avaient désespérément besoin d'être sauvées. Parce que Charlotte, elle avait un esprit scientifique, certes, mais elle avait aussi un très grand cœur.
Je crois que vous faites référence à la prochaine bulle sonore que Christiane souhaite nous faire entendre. Il s'y déploie l'histoire de l'une de ces personnes qui ont été sauvées par Charlotte Sémaphore.
Oui, exactement. Il s'agit de la captation d'une femme racontant l'histoire, semble-t-il, biographique de l'un des premiers arrivants de l'île. Tout porte à croire que ce personnage n'avait pas de nom propre. Il a marqué l'île en tant que bâtisseur d'un temple, le seul qu'on connaisse jusqu'à maintenant. Ce temple avait la particularité d'accueillir toutes les religions.
En préparant l'émission, je n'ai pas tout à fait saisi le contexte dans lequel a été capté cet enregistrement. Est-ce que vous pourriez m'éclairer?
Alors, excusez-moi, mais je parlerai plutôt de documents d'archives. Enregistrement... Bref. En simple, il s'agit de l'une des racontées de l'île. En fait, les racontées, c'est un moment de conte qui ponctuait la vie de l'île. Alors, ils avaient toujours lieu autour du bassin algothermique, afin, si vous voulez, d'activer...
Oui, les algues. Si vous voulez bien, nous aborderons les algues dans un prochain épisode.
Ah bon?
Mais passons d'abord à cette prochaine bulle, si vous voulez bien.
Ah ben, c'est dommage.
Je suis vraiment touchée de vous voir aujourd'hui. Pendant 3 ans, la brise noire nous a éloignés de notre île. C'est fini. Le grand déracinement est derrière nous. 3 ans, nous avons été obligés de vivre sur des planches flottantes, loin de cette terre qui nous est si chère. Ainsi comme elle était chère à lui auparavant. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qui reste de sa bulle sonore, ce que l'humidité n'a pas réussi à emporter. Comme vous savez, je l'ai trouvé avant mon départ vers les refuges des Palétuviers. J'étais venue ici pour faire mes adieux à notre temple, qui ornait à l'époque ce beau paysage maintenant vide. Et ce que j'ai vu, c'était de l'ordre de l'indicible. Sans doute, ces paroles m'ont aidé à trouver en moi la force nécessaire pour aller de l'avant. Lui qui n'était pourtant pas un homme de beaucoup de mots. J'espère que ces mots vous seront également utiles. Alors je vous invite à ouvrir grand vos cœurs, vos esprits, pour écouter la dernière histoire qu'il a voulu nous raconter. Pour célébrer celui qui nous a tant donné de son vivant. On y va. Un matin, son âme a été ramenée à son corps par les bruits des déflagrations assourdies venant de loin. À chaque coup de feu, le son était plus fort. Et lui, encore garçon, plus réveillé. En ouvrant les yeux, tout semblait pareil à la veille. Mais tout était changé pour toujours. Encore couché comme d'habitude, il a jeté un coup d'œil au toit fait de tuiles interbattues. Après, son regard a cherché l'image de Jésus collée sur le mur de briques orangé. Mais différemment des autres jours, il n'a pas pu faire sa prière du matin. Il a dû se redresser brusquement. À ses côtés, ses parents et sa sœur plus âgée n'y étaient plus. Le seul matelas de la maison qui accueillait leurs 4 corps pendant leurs petites heures de sommeil n'était qu'en vide. Et pour la première fois, tout leur chapelet gisait sur la boîte table de chevet malgré leur absence. Les bruits de la rivière, qui insistaient à couler malgré la sécheresse permanente, étaient cachés par une masse sonore incompréhensible. Et l'odeur, une odeur aigre, l'appelait à une autre réalité. Malgré la vitesse de son cœur, il a pris du temps pour traverser les draps qui séparaient la chambre du salon tout le reste. Il savait que l'inévitable l'attendait dehors. Il a pris une bonne respiration. Il s'est muni de tous les courages qu'un garçon de 9 ans pouvait ramasser. Je vous laisse écouter ce qu'il a vu.
J'ai traversé la petite distance qui me semblait interminable. J'ai ouvert la porte et j'ai vu. Un brouillard bourgogne a envahi mes yeux. Je n'arrivais pas à me rendre compte de ce qui se passait. Quand la lumière du soleil ne m'aveuglait plus, j'ai vu des hommes, des femmes, des enfants, une masse de mouvements enveloppés par la poussière. J'ai vu le couteau d'un autre qui affrontait des fusils et des corps de toute taille qui tombaient comme des fruits trop mûrs. J'ai vu une fumée blanche se densifier au-delà de la poussière bourgogne et des pieds en course. J'ai entendu des cris et des nouvelles déflagrations. Et dans l'air, l'odeur aigre et brûlant mes narines. Une odeur que seule la rencontre entre le sein des miens et de ma terre sèche pouvait provoquer. Plus loin, j'ai vu ma mère courant vers moi, me suppliant de rentrer à l'intérieur. C'était ses derniers mots. Et avant même que je puisse pleurer, ma sœur m'a tiré les bras et on s'est caché sous la table de la cuisine. On est resté là. père de Bot sont prêts, sortis de la maison d'un pas pressé, cassant tout sur les passages. On est resté là, les yeux criants, les bouches fermées. Plus tard, plus de bourdonnements incompréhensibles.
Il dit que même la vision des corps de ses parents ne l'avait pas tant choqué. Il le savait mortel. Mais sans conseiller, il se demandait qui les guiderait vers la terre promise.
La tête tournante, le corps lourd, j'ai demandé à ma sœur, mais comment c'est possible que conseiller soit mort? Pourquoi ils sont venus à... Elle n'a rien dit. Ma sœur s'est simplement baissée. Elle a pris un morceau de brique de l'église et me l'a mis entre les mains, en me regardant dans les yeux. Elle est partie du village de Canutus 5 ans après ce ravage. On ne s'est jamais revu. Moi, j'ai décidé d'y rester.
Plus tard, plus de bourdonnements incompréhensibles. Ayant peur qu'un bruit quelconque cause la reprise du chaos, lui et sa sœur sortent de leur cachette doucement, marchent d'un pas sûr. Tout est silencieux. Trop silencieux. Il court vers l'église. Et à ce moment, il voit. Il voit. Écoutez bien.
Je l'ai vu couché devant l'entrée de notre bâtiment sacré, réduit en poussière. Je l'ai vu, notre leader spirituel, Antonio Conselheiro, qui nous avait soutiré à la misère pour fonder un village d'espoir. Notre Canutus. Antonio Conselheiro était là, devant nos yeux, notre demi-dieu à nous, là, transpercé des balles provenant des fusils de notre propre armée brésilienne. Même la vision des corps de mes parents ne m'avait pas choqué autant.
Oui, le garçon devenu jeune homme a décidé d'y rester. Personne ne sait pourquoi. Peut-être parce que c'était la seule chose qu'il connaissait. Peut-être qu'il voulait se sentir encore plus proche des siens. Mais moi je pense que peut-être son vide intérieur était trop lourd pour permettre tout mouvement. Pendant plusieurs années, il est resté là, seul, à côtoyer la faim et la sécheresse. Sécheresse des terres, des présences humaines, des présences animales. Personne, rien sinon lui et son morceau de brique, ne résistait au soleil. Peut-être qu'il était condamné à survivre. Il décrit que son corps, même si encore jeune, devenait le reflet du sol. Les traits de son visage se creusaient, la peau devenait poussiéreuse, et son teint, brun, comme... un coucher de soleil et la fatigue. Il résistait, malgré lui.
Jusqu'au jour où j'ai vu au loin se dessiner une embarcation. Je l'ai contemplé pensant que mes yeux me jouaient des tours. Je pensais que sans doute, elle s'était égarée de son destin. Sans doute le ciel l'avait menée à ma rencontre. De ce jour, il ne me reste que des primes. Je me rappelle d'une femme qui marchait sur les eaux de la petite rivière, qui insistait à s'écouler malgré la sécheresse. La main de Charlotte Sémaphore m'aidait à monter dans le canot. Le canot qui m'a emporté jusqu'à l'Hyperion 2, navire sur lequel je suis embarqué. Ce sont des mots dans des langues inconnues, des chuchotements et des cris qui petit à petit ont été étouffés par l'intervention de Charlotte Sémaphore. À l'aide de sa longue vue, Charlotte m'avait repéré.
À l'aide de sa longue vue, Charlotte Sémaphore l'avait repéré. Un seul corps debout, à près des kilomètres des carcasses d'animaux et de terres battues. Elle, comme une bonne survivante de naufrage, savait que les connaissances d'une personne capable de survivre dans des conditions pareilles pourraient leur être très utiles. Alors ils montent dans l'Hyperion 2 et des dizaines de lunes plus tard, ils arrivent ici, à l'île inventée. Je trouve tellement beau, il dit que devant ses yeux poussiéreux, la végétation et les gens fleurissaient. Convaincu du miracle, muet d'étonnement, il dit qu'il s'est agenouillé dans les sables et qu'il a fait sa première prière sur notre île. Ça lui a pris quelques jours pour retrouver la parole, mais les visites occasionnelles de Charlotte lui ont redonné petit à petit un désir de réhydrater son existence. Avec le temps, il parlait de leur manque, de leurs rêves, de leur technique de survie. Et ainsi, je crois, son esprit devenait moins lourd. Alors, un matin, peut-être parce qu'il faisait plus doux que d'habitude, il a décidé de planter dans la terre son morceau de brique. Il avait compris sa raison d'être. Construire à cet endroit-ci un bâtiment pour remercier l'abondance de tout ce qui nous entoure. Un bâtiment où toutes les manifestations de foi seraient accueillies également. Un espace de partage d'amour. Sans savoir le nommer, il créait ici le premier temple œcuménique. Et comme vous savez, il avait plutôt une approche anthropologique que religieuse. D'autres cailloux, d'autres pierres de toute taille ont été ajoutées par lui au fil des mois. Mais doucement, son travail solitaire est devenu une routine des groupes. Notre routine. Et au bout de 2 années, un temple, humble, mais temple, avait été érigé. Par nous. Lui qui n'était pas bavard et qui parlait timidement le français, il a dit lors de l'inauguration.
D'une seule fois, démener à la perte d'une communauté, j'ose croire aujourd'hui que la rencontre des différentes croyances sera le chemin pour construire une communauté durable.
Comme vous le savez, les premières semaines, personne n'a osé laisser quoi que ce soit. Mais au fil des mois, certains d'entre nous, on a apporté des objets, des plantes de nos pays d'origine. Nos petits souvenirs laïcs qui devenaient petit à petit sacrés. Des rituels de toutes origines ont été repris, d'autres ont été développés. Et peu de temps après, vous vous rappelez, les micro-algues de l'algotherme. Elles ont commencé à réagir aux musiques et aux prières qu'on récitait. Pendant 5 ans, on a vécu une vraie communion. Une communion entre humains, objets et plantes. Devant ceux qui pour lui étaient un miracle, souvent ses larmes débordaient. Mais comme il dit, de miracles peut-être qu'il en avait déjà eu son lot. Face à l'ampleur que notre sous-communauté prenait, un groupe d'habitants mécontents s'est organisé, affirmant que les pratiques de notre temple nous déviaient de nos propos sur l'île, que nos réunions œcuméniques empêchaient les citoyens de se dédier à la recherche scientifique, que nos croyances nous attachaient trop au passé. Ce groupe a pris une décision. Une décision que changerait tout. Ainsi, un matin, notre garçon devenu homme s'est réveillé brusquement. Son âme a été ramenée à son corps par des bruits venant de loin. La vitesse de son cœur coïncidait avec celle de ses pensées. Il a traversé en courant la petite pièce qui lui servait de chambre. Il a regardé à l'extérieur. L'image claire d'une dizaine d'hommes se dirigeant vers le temple. Bâton et pelle à la main. L'image l'a transpercé comme une balle de fusil. Sachant qu'aucune table ne pourrait le cacher cette fois-ci,
j'ai ouvert la porte.
Il ouvre la porte.
Je pense à ma sœur.
L'image de sa sœur envahit ses pensées.
Et
face à l'inévitable, il fait ce qu'il savait faire de mieux.
J'attends.
Il a attendu.
C'est bien sombre comme récit. Votre livre, Christiane Vanel, souligne très bien l'île inventée que vous exposez n'est pas vraiment la cité idéale qui avait été rêvée par ses fondateurs, non?
En effet, assez tôt dans l'histoire de l'île, des visions se sont opposées et des groupes formés autour de certaines valeurs.
Est-ce à dire que la fiction aujourd'hui ne permet plus de rêver l'utopie?
Oh, la grande question, ce que la fiction peut et ne peut pas faire, il faudrait vraiment y consacrer une série entière de podcasts.
Mais nous avons des archives qui montrent que toute l'aventure de fondation de l'île n'était pas absente d'une recherche de la société idéale.
Oui, tu fais bien de le souligner, Flavie. Mm-hmm. En fait, comme la bulle sonore de Charlotte Sémaphore.
Exactement, exactement. Qui est un magnifique, mais magnifique document, cette
magnifique.
Bulle.
Que nous garderons pour un prochain épisode.
Ah, mais non!
Parce que non,
il faut vraiment vous écouter.
Qu'on avait.
Non, Simon, non mais ne boudons pas notre plaisir. Ça nous fera une fin d'épisode beaucoup plus joyeuse.
J'y vais.
Simon,
on est dans un format quand même.
Mais... Non, mais Simon, de toute façon, on est en train de faire du podcast là, c'est ça qu'on fait. Non, bon, alors on dit
balado au Québec.
La durée des podcasts, c'est pas une contrainte comme à la radio. Hein? On est d'accord, Simon, non?
Ouais, c'est... ça dépend.
C'est bon, c'est envoyé.
Allez, c'est parti.
Ma chère Suzy, certains disent qu'il n'y a pas de hasard, d'autres qu'il fait bien les choses. Pour ma part, j'ai toujours cru que les aléas de l'existence sont un seul outil pour traquer dans la multiplication fabuleuse des événements qui constellent nos vies, ceux qui ont le potentiel de changer le monde.
Une production de Rhizome et de Arcam-sur-Loire en collaboration avec La Quadrature.
D'écouter Cosmogonie de l'île inventée, épisode 2, Déjà vu. Une production Rhizome et Arcam-sur-Loire en collaboration avec La Quadrature. Cette émission est à retrouver en podcast sur jetfm.fr. Bonne soirée sur JetFM.